En fait, il s'agit de la suite de notre enquête sur la ville. Vous vous rappelez que le directeur du CHIS, Hubert de Ronceret, nous avait promis de nous présenter les résultats de l'enquête sur un quartier de Port-au-Prince, le Bel Air. Il sera donc question du Bel Air ce soir. Avec intervention d'Albert Mangonès, de Fritz Benjamin et une présentation historique de ce quartier par George Covington. Inutile de vous le présenter d'ailleurs. Il était à notre micro lors du premier débat sur l'urbanisme et vous avez dû certainement lire le deuxième volet de son histoire de Port-au-Prince. Georges, bonsoir, merci d'être là. Et j'espère que cette histoire du Bel Air va te faire autant de plaisir qu'à nous, autant de plaisir à raconter qu'à nous, à l'entendre. Bien, alors on commence par là.
Ces quartiers marginaux semblent être dans le monde le lieu unique où misère et bonheur réalisent la plus parfaite union. Quand il n'y a pas de cérémonie vaudou, de match de football ou de carnaval, jeunes et vieux s'adonnent au cerf-volant. Ou bien si c'est un dimanche, les transistors sont ouverts pour écouter de la musique ou pour suivre les résultats de la borlette. La pratique de ce jeu a augmenté considérablement le nombre de transistors dans les quartiers pauvres. C'est ce qui explique qu'on trouve au Bel Air un transistor pour 200 personnes à l'intérieur des corridors. Toutes ces informations débouchent naturellement sur un problème d'habitat, une politique de l'habitat. Le Bel Air offre le spectacle d'un véritable désordre de la construction qui va en s'aggravant. Le seul moyen efficace de freiner l'état de misère croissant de ce quartier sur le plan du logement, c'est de formuler une politique de l'habitat qui définissent les conditions de développement et de transformation intégrée de l'habitat, les moyens financiers et les options essentielles. La première étape d'une telle mesure pourrait consister dans une récupération d'une partie du Bel Air et l'implantation d'un plan modèle. Pour être efficace, pareille mesure pourrait être basée sur une action financière et sur une action au niveau des coûts de construction. Le financement de la construction de logements peut être assuré par un système de crédit à long terme, par des programmes d'épargne obligatoires. On pourrait recourir au financement privé par des concessions, un système de bonification d'intérêt. L'habitat n'étant pratiquement pas une source de recettes en devises pour l'État, ce dernier pourrait miser sur le caractère social de ses projets. On pourrait envisager de réduire les coûts de construction en standardisant les équipements et en utilisant rationnellement les matériaux de base du pays. Une telle méthode suivie par le Ghana a permis à ce pays de consacrer plus de 30% de ses investissements publics aux habitats à bon marché tout en réduisant les coûts de 15%. Plusieurs pays d'Europe et d'Afrique ont résolu le problème du logement par des coopératives de construction. La formule coopérative touche à la fois le problème du financement interne et celui du coût réduit. Des membres de même corps, administration, ouvriers d'usine, armée, charpentiers, etc., s'unissent et achètent des terrains privés ou publics, bénéficient de prêts remboursables à long terme, 15-20 ans. La solution coopérative a l'avantage de favoriser la construction de logements à bon marché, répondant au faible niveau de vie des groupes. Elle introduit un système de financement rigoureux et économique. Elle facilite la participation à une œuvre collective et l'appui de la collectivité aux intérêts individuels. Pour finir, disons que le concept d'habitat évolutif pourrait s'avérer très utile et très réaliste dans le cadre du Bel Air. Il reste à la mesure des possibilités financières des familles. On pourrait définir un module d'habitat de base sur un lot préalablement viabilisé. Ce module comprendrait une cuisine, une chambre à coucher, un salon, une toilette et une cour intérieure. Les chambres seraient ajoutées au fur et à mesure de l'agrandissement des familles et selon les besoins de ces dernières. Voilà en gros quelques-unes des observations que nous avons faites sur le Bel Air. Il ne s'agit pas de l'enquête exhaustive qui paraîtra dans un mois ou plus, nous l'espérons bien. Il s'agit là d'un résumé que nous avons extrait à votre intention, ce afin de faciliter les débats de cet après-midi.
Eh bien, merci, docteur de Ronceret, pour ce résumé de l'enquête réalisée par le CHIS sur le Bel Air. Je vais reprendre tout à l'heure les quelques points que j'ai notés au passage, et nous pourrons ouvrir à ce moment-là le débat avec les différents, les différentes personnalités présentes à cette table, et aussi, éventuellement, avec les membres de notre auditoire qui voudront bien téléphoner. Mais en attendant, nous allons demander à notre informateur de diffuser le dernier bulletin de nouvelles. Il est dans 30 secondes, il sera 5 heures.
Inter-information. Bulletin d'information présenté par le lait Prise. Parmi d'autres sources, l'agence France Presse. Une courtoisie du lait Prise. Le lait à bon marché produit par la Carnation. Toujours à l'heure, Inter-information.
De Santo Domingo a été interdite la libre circulation des civils à travers les zones où les troupes anti-guérilleros de l'armée dominicaine traque le groupe armé qui a envahi la zone sud de la République il y a une semaine. Les guérilleros ont débarqué dimanche dernier tôt le matin sur la plage de Caracol, dans la province d'Azua, venant probablement de Cuba, dans un petit bateau à moteur. Jusqu'à présent, l'armée a 3 morts et 3 blessés dans ses rangs. Un combat s'était déroulé lundi matin entre les guérilleros et l'armée dominicaine, informe un officiel de Santo Domingo. L'interdiction de la circulation a suivi une visite d'inspection de la zone du secrétaire des forces armées, le contre-amiral Ramon Emilio Jiménez, et du chef d'état-major général de l'armée dominicaine, le général Enrique Pérez. Ils ont déclaré qu'une circulation des civils dans la zone pourrait nuire aux activités de l'armée. Le transport de matériel de guerre continue à être effectué en hélicoptère dans les zones boisées où les troupes régulières cherchent le campement des guérilleros. À la tête de la garnison improvisée de la province d'Ocoa se trouve le général Jean-René Beauchamp Janvier et les opérations dans le secteur sont dirigées par le général Ramiro Matos González, sous-chef de la force aérienne dominicaine. Des sources souchées au milieu anti-guérilla dominicain assurent que chaque minute qui s'écoule permet de mieux circonscrire les insurgés. On croit savoir qu'un groupe armé, estimé à 8 ou 10 hommes, est dans une vaste zone dans les environs de San Juan de Ocoa. Cette zone comprend la Sierra de Ocoa, où s'est déjà produit l'affrontement de lundi dernier entre les troupes régulières et les guérilleros. Cependant, on suppose à Santo Domingo que les guérilleros cherchent à endormir la vigilance de l'armée pour se replier dans un endroit plus sûr, pour ne pas avoir à se rendre ou être exterminés. De nombreuses versions circulent sur le fait que les guérilleros, selon les dires des paysans, ont abandonné leurs repères, obligés par les militaires dominicains d'abandonner leur position. Ils se rendaient compte qu'ils étaient pratiquement encerclés par l'armée dominicaine. De New York, nous reprenons l'information que tout à l'heure nous avons diffusée en flash. Un gigantesque tank de gaz naturel liquide a explosé aujourd'hui dans une fabrique de produits chimiques de Staten Island. Les équipes de secours ont été immédiatement dépêchées sur les lieux. De Amman, l'Allemagne fédérale a fait don de la section de l'université jordanienne d'Amman du matériel de laboratoire d'une valeur de 260 000 marques. Un accord en ce sens a été signé samedi entre M. Abdel Salam Al-Majali, recteur de l'université d'Amman, et M. Louis Scheigel, ambassadeur d'Allemagne fédérale en Jordanie. L'accord prévoit en outre que 2 physiciens jordaniens seront formés en Allemagne fédérale et qu'un expert allemand sera affecté à la session de physique de l'université jordanienne.